Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, le podcast dédié aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer la neuropathie optique héréditaire de Leber et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Vassili Smirnov. Docteur Smirnov, bonjour.
Bonjour à tout le monde.
Docteur Smirnov, vous êtes ophtalmologiste, chef du service d'exploration de la vision et de neuro-ophtalmologie du CHU de Lille et coordonnateur du centre de référence des maladies oculaires rares dans le réseau Maolia, affilié à la filière SensGen. Alors nous abordons aujourd'hui la prise en charge de la neuropathie optique héréditaire de Leber. Et pour débuter notre entretien, Dr Smirnov, quels sont justement les enjeux de cette prise en charge?
La prise en charge de la neuropathie optique de Leber se révèle souvent complexe, donc, puisque tout d'abord nous sommes amenés à traiter des différents types de patients. La maladie touche surtout les hommes jeunes qui sont en pleine santé en fleur de l'âge, puisque le pic de prévalence de la maladie est entre 20 et 25 ans. Donc, c'est ces patients-là qu'on sera amené à traiter. D'une manière relativement plus rare, on est aussi amené à traiter des patients pédiatriques et dans les âges plus avancés. Il faut savoir que la maladie se manifeste très différemment chez les patients pédiatriques et le pronostic n'est pas du tout le même que chez les patients adultes. De ce fait-là, le traitement des patients pédiatriques, en tout cas des patients qui ont moins de 15 ans, est tout à fait différent. Parfois, on peut aussi être amené à diagnostiquer la maladie chez des sujets beaucoup plus âgés et on s'adapte dans ce cas-là à des particularités de la population gériatrique. En somme, tous les âges des patients sont concernés par la maladie. Les enjeux de traitement sont multiples, mais on va dire qu'on va distinguer des enjeux idéaux et des enjeux qu'on peut réellement prendre en charge. Donc, dans l'idéal, on aimerait de prévenir la baisse d'acuité visuelle, de réduire l'importance de cette baisse d'acuité visuelle dans la phase mobile de la maladie et ensuite obtenir la meilleure récupération de l'acuité visuelle à la fin de cette maladie. Malheureusement, les objectifs sont rarement atteignables compte tenu de la sévérité et de l'histoire naturelle, ça veut dire de l'évolution de cette pathologie. En réalité, au premier plan, sont des mesures rééducatives, réadaptatives et des mesures de l'aide, que ce soit l'aide psychologique ou que ce soit l'aide à la basse vision des patients.
Et quels sont les types de traitements disponibles?
Pour répondre à cette question, il faut rentrer un peu dans la physiopathologie de la neuropathie optique de Leber. Il s'agit d'une panne de la station énergétique de la cellule, c'est-à-dire de la mitochondrie. Et dans les mitochondries, il y a des complexes différents par lesquels les électrons et les protons cheminent pour, in fine, créer un peu d'énergie. Donc la maladie de Leber, c'est une panne de complexe 1 de la chaîne respiratoire mitochondriale. Donc il y a des stratégies thérapeutiques différentes qui découlent de cette panne de complexe 1. Les plus anciennes stratégies ce sont des sortes de cocktails vitaminiques qui visent à booster le fonctionnement de cette chaîne respiratoire mitochondriale. Par exemple, les vitamines B1, B6, B12, des polyvitamines qui ont été testées en première intention. Mais malheureusement, leur efficacité elle est relativement faible. Il n'y a pas de grosse étude randomisée, donc ça reste anecdotique. Les deuxièmes types de traitements, c'est les traitements qui essaient de chanter, en quelque sorte de surpasser le complexe 1. Donc, ce sont des petites molécules mobiles qui sont dérivées de l'ubiquinone qui est la molécule naturelle, et qui essaient de porter les électrons à travers le complexe 1 sans utiliser ses capacités. Donc, ici, on dispose de plusieurs petites molécules. Leur efficacité est certaine dans les études statistiques. On trouve des différences statistiquement significatives entre des patients traités et entre des patients naïfs de tout traitement. Maintenant, dans la pratique clinique courante, on peut dire que même s'il y a des légères améliorations avec ces traitements-là, qui sont prouvées par les études, malheureusement, vis-à-vis d'un patient, il reste des améliorations trop peu perceptibles. L'autre type de traitement qui a été essayé dans la neuropathie optique de Leber, c'est les essais de remplacer le complexe 1 défaillant. Et ce remplacement, ça passe par la thérapie génique. Donc, c'est les traitements qui ont été essayés dans plusieurs centres au monde. Donc, c'était des études menées aux États-Unis, en France, en Italie, en Allemagne et en Grande-Bretagne. C'était des études pluricontinentales. Donc, on a essayé de rapporter dans l'œil le gène qui était cassé dans la neuropathie optique de Leber par l'injection intravitréenne d'un virus qui transfecte des cellules visuelles et qui apporte justement ce gène qui est cassé, mais dans la copie normale. Ces études, elles ont démontré d'eux-mêmes une efficacité certaine, statistiquement significative, puisque l'acuité visuelle des patients s'améliorait à peu près de 3 lignes. Maintenant, il faut savoir que ces améliorations étaient relativement faibles si on le considère dans les valeurs absolues. Donc, ça veut dire que la majorité des patients, elles restaient dans les acuités visuelles relativement faibles à la fin de ces traitements. On aimerait beaucoup avoir ces traitements dans les cliniques pratiques courantes, mais malheureusement, vis-à-vis de l'efficacité relativement faible, ils n'ont pas été acceptés par les agences de médicaments, que ce soit l'agence européenne ou que ce soit la FDA, donc l'agence américaine. Il faut savoir que tous ces traitements, quels qu'ils soient, et quelques traitements dont nous disposons actuellement, ne permettent pas de prévenir la baisse d'acuité visuelle. Donc, c'est des traitements qui permettent d'obtenir les meilleures récupérations. Mais malheureusement, si la baisse, elle doit survenir, elle va survenir, et ça ne modifie pas l'évolution naturelle de cette baisse. Donc, ça veut dire que les patients traités ou pas traités, ils vont quand même atteindre le nadir, ou nadir, c'est le mot qu'on utilise pour dire l'acuité visuelle la plus faible, dans le cours de leur maladie. Et ces traitements, ils vont juste modifier la récupération finale à la fin de la phase active et de la phase mobile de la maladie, ça veut dire à la fin des 2 ans après le début de la maladie.
Et en complément de ces traitements, quelle prise en charge recommandée ?
Le complément, probablement, c'est le traitement et la prise en charge la plus importante. Donc, tous les patients, ils ont des conseils hygiène diététique et des conseils de modification de leur vie. Il est important d'arrêter le tabagisme et consommer les boissons alcoolisées d'une manière très modérée, puisqu'on sait que le tabac, c'est un facteur toxique très important pour le nerf optique. Il y a aussi des conseils de prendre des rééducations à la basse vision avec les orthoptistes et des opticiens spécialisés. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet puisqu'il y aura un autre orateur qui va vous présenter des enjeux de la basse vision, mais je vais vous dire que la rééducation la plus utilisée, c'est la rééducation à la fixation excentrique puisque les patients avec la neuropathie optique de Leber présentent un scotum central, donc une sorte de tache qui leur empêche de fixer droit devant, mais ils peuvent utiliser la vision un petit peu sur les côtés, si vous voulez, en déplaçant cette tâche sur le côté de l'objet qu'il regarde et en regardant par le coin de l'œil, entre guillemets. Ensuite, on conseille bien sûr l'équipement en basse vision et ici, les systèmes de grandissement, des loupes, des télescopes peuvent être tout à fait adaptés et peuvent être tout à fait utiles. Encore faut-il les tester avec des spécialistes de la basse vision. L'autre point qui est probablement très très important, en tout cas au début de la maladie, c'est la prise en charge psychologique. Donc les patients, ils doivent avoir le soutien puisqu'il s'agit des patients qui sont très jeunes, qui perdent leur vue, qui tombent souvent en état dépressif. Donc il y a un soutien psychologique à proposer à ces patients. Ce soutien, on le commence déjà en consultation et ses besoins, on l'étend par les consultations spécialisées des psychologues qui sont relativement spécialisés dans la basse vision. Et les prises en charge sociales, elles sont initiées par le remplissage de certificats de MDPH qui ouvrent tous les droits sociaux. Pour les enfants, le point très important, c'est qu'on doit adapter la scolarisation à leur niveau de la basse vision. Donc, parfois, on peut continuer la scolarisation normale avec les aides, mais parfois, on est obligé de les déscolariser au profit des écoles spécialisées.
Et pour conclure, Dr Smirnov, quel suivi proposer aux patients ?
Le suivi, c'est de même quelque chose d'important parce que ça permet d'avoir une discussion avec les patients, ça permet de suivre ce qui se passe dans sa vie, ce qui se passe avec sa vision. Donc au début de la maladie, dans la phase aiguë, on est amené à voir des patients assez fréquemment puisqu'il y a des enjeux diagnostiques, il y a des enjeux de mise en route de traitement. Donc souvent, sur les 6 premiers mois, on les voit 3 ou 4 fois. Une fois le diagnostic est établi et le traitement, quel qu'il soit, est prescrit, une fois la prise en charge sociale est mise en route, on voit les patients à peu près une fois tous les 6 mois sur les 2-3 premières années. Au-delà de 2-3 premières années, on raréfie les visites ophtalmologiques et on les voit en pratique une fois par an et parfois même à la demande des patients, puisque parfois il faut remplir certains certificats ou parfois ils ont besoin des aides ponctuelles et réévaluations ponctuelles. En pratique, on conseille néanmoins aux patients le suivi à vie.
Eh bien, merci infiniment, Dr Smirnov, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est la neuropathie optique héréditaire de Leber. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.